Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quand je serai grand, je serai astronaute.
Quand je serai grand, je serai actrice.
Bienvenue sur Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Nous sommes deux amis, Ulrich et moi, c'est Prisca. Un lundi sur deux, nous abordons avec nos invités les problématiques liées au racisme et aux discriminations que parents, enfants, adolescents et jeunes adultes vivent de la maternelle au banc des grandes écoles. Cet épisode a été enregistré en live le 28 janvier 2022 au Théâtre de la Flèche d'Or, à l'occasion de la sortie du livre « Survivre au taf » de Marie Da Silva, aux éditions Daronne. Vous l'aurez compris, notre invitée est Marie Da Silva, aka Blackavel comme elle se nomme sur Twitter. Elle est la fondatrice de l'agence de coaching Nkali Works, qui accompagne de manière stratégique et personnalisée les personnes minorisées par le racisme et à l'intersection de différentes oppressions. Marie a accepté de nous parler d'elle, de son enfance, sa famille, ainsi que de son parcours pro. Mais nous l'attendons surtout sur son analyse des outils d'oppression utilisés sur des personnes minorisées. Elle nous a même donné quelques techniques de survie en milieu hostile. Alors prenez place et bonne écoute. Marie Da Silva, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie de t'accueillir ce soir ici à la Flèche d'Or devant tout ce monde. Une fois de plus, je suis émue d'être là ce soir avec toi. Je voulais te remercier parce qu'on s'est rencontrés une première fois il y a déjà un peu plus d'un an. Ça a été un très 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 grand moment pour moi. Et je te remercie de m'avoir contactée cette fois encore pour pouvoir t'interviewer aujourd'hui parce que ça fait quand même plus d'un an que je te cours après. Ce soir, c'est la première fois que j'enregistre podcast en live comme ça. C'est aussi la première fois que je sors l'identité sonore de Les Enfants du Bruit et de l'Odeur que vous venez d'entendre là. Et c'est aussi là une grande première surtout pour toi avec la sortie de ton livre. Donc, gros gros bravo à Marie ce soir.
Merci. Amel, s'il te plaît.
Sur Les Enfants du Bruit et de l'Odeur, on demande en fait à nos invités de se présenter avec leurs mots. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Marie, ce soir, te présenter ?
Donc, Marie Da Silva, j'ai 26. On va pas commencer par mentir, mais voilà, j'ai 38 ans. Et donc, j'ai fondé une agence qui s'appelle Nkali Works. Et le but de cette agence, c'est d'accompagner de manière stratégique toutes les personnes minorisées par le racisme, mais pas seulement le racisme, parce qu'on peut être à l'intersection de plusieurs choses. Et l'idée, c'était de proposer en fait un accompagnement personnalisé et de prendre en compte en fait cette dimension liées aux oppressions que l'on peut subir et que j'ai pas pu voir en fait dans d'autres coachings par exemple.
D'accord. Et tu fais ça depuis combien de temps ?
Honnêtement, je sais pas. Mais je vais la première manifestation liée à Nkali Works et au coaching, c'était en 2017. Et on avait fait une journée de coaching avec Laurent Safou, Mrs Roots. Qui est autrice maintenant, et on avait fait une journée qui s'appelait Femmes noires et travail. D'accord. Et c'est là que j'ai vu que je voulais faire ce métier et j'ai continué à partir de là.
Et aujourd'hui, tu es autrice aussi ?
Non.
Non.
Autrice, je sais pas. En tout cas, je sais que j'ai écrit un truc. Mm-hmm. Je sais que j'ai écrit un livre. Et l'idée en fait, c'était que ce message en fait d'empowerment, de stratégie et de combat finalement puisse se retrouver hors réseau et que tout le monde ait sa petite bible de combat.
D'accord.
En sachant que c'est vraiment l'idée c'était vraiment de présenter ça comme un voyage, à la fois un voyage personnel mais aussi avec les personnes avec lesquelles j'ai travaillé pour que ces cas puissent être pris en charge, que ces coachings deviennent possibles, mais aussi pour les personnes coachées elles-mêmes.
On va revenir au livre un peu plus tard, mais aujourd'hui, là, tout de suite, là, je voudrais que tu me parles un petit peu de toi, Marie, de qui était la petite Marie. Comment tu étais petite?
Alors, donc, y a bien ma famille qui rigole au premier rang, c'est bien, c'est bien.
Il y a Baba qui est là aussi, hein. Voilà. Dédicace à Baba ce soir.
Alors, la question, c'est qui j'étais petite. J'étais rêveuse. Petite, j'étais très certainement en colère. Je me suis toujours réfugiée en fait dans mon imagination pour pouvoir advenir. Donc l'imagination, ça a été l'imaginaire, c'est quelque chose qui m'a portée et qui me porte encore aujourd'hui. Petite, en fait, j'avais aussi une espèce de narrateur en fait qui me décryptait les situations. Et qui est toujours là. Et petite aussi, je n'étais pas concentrée, je n'étais pas sage, et j'étais plutôt quelqu'un de dissipé. Et je le suis encore aujourd'hui.
Tu avais déjà un narrateur comme ça, toi? Tu avais déjà un petit personnage qui...
Oui.
Qui me... Donc tu l'as construit depuis tout petit, ça,
exactement,
en fait.
Exactement. En fait, je conversais avec lui... on était par exemple à l'école, il se passait quelque chose et puis je lui disais: est-ce que tu as vu? Il fait: bien sûr, j'ai vu. Et on discutait comme ça. Et donc c'est une petite voix en fait qui m'a jamais vraiment quittée, et puis j'ai l'impression en fait qu'elle se réadapte au fur et à mesure que j'avance dans la vie. Donc mon narrateur est toujours là.
Tu sais, le podcast, il aborde toutes les discriminations, que ce soit de la toute petite enfance jusqu'aux grandes écoles. Et est-ce que tu en as vécu, toi? Ça s'est passé comment, ta scolarité?
Je me rappelle avoir détesté l'école avec passion. Je n'avais strictement rien à y faire. Je n'avais rien à y faire parce que je me sentais pas forcément comprise. Je fais le lien avec ma situation aujourd'hui. Par exemple, on m'a diagnostiqué en fait un TDA cette année, enfin en 2021. Et ça a été vraiment, ça a été un moment très très important, dans la mesure où je mettais enfin des mots sur ce que j'avais pu vivre avant. Et faut savoir aussi que, en fait, les enfants noirs ne sont pas forcément diagnostiqués de leur TDA, puisqu'en fait, on va avoir tendance à les stigmatiser, quand ils ne vont pas gérer leurs émotions, on va les quelque part presque les criminaliser. C'est le début de la criminalisation, c'est le début de comment en fait on peut être considéré comme un problème.
Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un TDA, justement?
C'est un trouble de l'attention. Je suis encore en train de le décrypter. Et c'est intéressant parce que ça a mis des mots sur certaines situations que j'avais pu vivre petite. J'avais une façon de penser bien à moi. Il y avait aussi ce côté où j'avais du mal à faire ce qui ne m'intéressait pas et un peu ce qui m'intéressait. Et donc du coup, j'ai pas forcément été comprise en fait. Et c'est marrant en fait aujourd'hui de me dire il s'est passé des choses liées à ce trouble de l'attention, mais quand j'étais plus jeune, en fait, c'était considéré comme de la fainéantise, comme un refus de travailler, un refus de comprendre ou un refus d'obtempérer. Alors que j'avais pas les moyens de dire ce qui se passait.
C'était un peu dire en fait que c'est par nature, c'est parce que tu es noire que tu es comme ça. C'est pas parce qu'il y a d'autres facteurs. Ça expliquerait tout.
Oui, parce que enfin j'ai l'impression que un enfant noir à l'école, ou un enfant racisé en tout cas, avant même qu'il comprenne ce qui se passe pour lui, doit répondre à des attentes, des attentes qui sont latentes, qui ne sont pas exprimées. Et donc du coup, le destin d'un enfant racisé à l'école n'est pas simple, en tout cas. Il ne va pas de soi.
D'accord. Et tes parents, ils en pensaient quoi de tout ça, à l'école?
Je pense que mes parents ont beaucoup respecté cette institution, peut-être même un peu trop, dans le sens où il y avait cette pression de réussir, il y avait... le fameux tu travailleras quatre fois plus, je l'ai entendu très tôt dans ma vie, ça. Et aussi je représentais quelque chose en fait. Dès petite, en fait, je sais pas si j'ai été pleinement enfant. Je me représentais moi, mais je représentais aussi tous les autres.
comme beaucoup d'entre nous ici, je pense.
Voilà.
Dans ton livre, justement, à un moment, tu parles d'avoir eu honte de ce que tu pouvais représenter, de la filiation.
En fait, c'est pas forcément honte de la filiation, mais l'école, en fait, c'est une institution qui nous apprend à avoir honte de qui on est. Il ne faut pas qu'on dise qu'on parle une autre langue à la maison. Notre environnement est souvent questionné. On cherche à savoir de manière pas forcément de manière bienveillante comment on vit, etc. Donc en fait, il y avait toujours cette suspicion de quel est l'environnement de cette petite fille et pourquoi elle réagit de telle ou telle manière ou à telle ou telle chose. Et la question, en fait, n'était jamais anodine.
Est-ce que tu as l'impression que, qu'en fait, c'est quelque chose qui va tout naturellement, de la petite enfance au monde professionnel ? Est-ce que tu as l'impression que ce sont des choses qui glissent, en fait, qui continuent ?
Oui, en fait, c'est un continuum, en fait. Les projections, la mise à l'écart et plus formellement la discrimination... En fait, font partie de la vie d'un individu du début jusqu'à la fin. L'école, en fait, c'est l'antichambre de ce qui va se passer au travail, puisque en fait, c'est là où on va apprendre la discipline qu'on va maquiller en professionnalisme plus tard. C'est là aussi qu'on va apprendre en fait à être silencieux et à calculer en fait, à être dans cette espèce de calcul. Tous les enfants racisés que nous avons été ont été dans le calcul à un moment donné pour pouvoir survivre et advenir, c'est clair.
Puis le mot survivre est quand même assez fort, c'est un mot que tu emploies. Donc quand tu avais fait un atelier d'ailleurs, tu disais qu'on était des survivantes. Hein. Et pourquoi tu choisis ce mot survivant ?
En fait, je choisis le mot survivre parce que la discrimination, avant tout, la discrimination ou l'oppression, c'est un choix de société et on décide qu'un groupe de personnes données va éprouver des difficultés à exister. Et ces difficultés à exister, en fait, vont être posées en fait, de manière systémique, donc écrasante pour l'individu qui va devoir les subir. Donc oui, je parle de survivre, parce que quand on est oppressé, il y a énormément de situations où on n'aura pas accès à la vie pleine, en fait. C'est survivre en contradiction avec ce que j'appelle, en fait, la vie pleine.
À quel moment le déclic arrive, hein, que tu t'es dit, bon, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je puisse... avoir les stratégies de survie, justement. À quel moment ce déclic t'est arrivé ?
Alors, j'ai détesté l'école avec passion. J'ai détesté aussi le travail avec passion. Donc, en fait, j'ai détesté le travail avec passion parce que ce sentiment de ne pas être à ma place m'avait suivi de l'école au travail. Ce sentiment de ne pas être à ma place était toujours là, en fait. Le travail n'a jamais été un espace de rédemption pour moi, n'a jamais été un espace où je me suis réalisée. Et aussi, j'ai pas pu me développer dans le travail parce que j'ai l'impression que j'avais déjà refusé les codes, en fait. J'avais déjà refusé l'absurde. Et le travail, par nature, en tout cas tel qu'il est construit et tel qu'il est conçu aujourd'hui, est absurde. Ce que je faisais était proprement absurde. Et on me demandait de le faire avec conviction.
Mais en même temps, au début, tu participais à ça, tu voulais.
J'ai eu mon bac et ensuite je suis allée bosser dans la vente et j'ai bossé dans la vente 10 ans. Et la vente est un métier absurde. Quand, par exemple, tu es sur ton corner au Bon Marché ou aux Galeries Lafayette et que tu vas vendre un manteau qui fait 10 fois ton loyer ou 10 fois ton salaire, on est dans l'absurdité. Quand, par exemple, dans chaque pièce dans laquelle tu entres, tu es la seule femme noire, on est dans une absurdité. On est dans une absurdité parce que ce travail, en fait, ne nous fait pas vivre et au contraire, en fait, il nous atteint. Donc, en fait, j'ai été j'ai été amenée à exister dans cette contradiction en permanence. Pendant 10 ans, à chaque fois que je rentrais dans une pièce, j'étais la seule femme noire qui rentrait dans une pièce. Et je devais faire face à l'étonnement des gens, comme si j'avais été inventée dans les années 2000. Donc, c'est tout ça, en fait. Et moi, j'avais du mal, en fait, à considérer cet absurde comme ma réalité. En fait, le drame d'une personne racisée, c'est d'avoir compris qu'elle était racisée. Et donc, du coup, ça se met, cette conscience d'être l'autre, elle va appartenir à toutes les interactions que tu vas avoir. Donc, pour moi, tout était absurde.
Et toi, tu t'en es rendu compte d'être l'autre très tôt?
Ah oui, oui, oui. Le premier job que j'ai fait, on m'a félicité de mon français. J'avais envie de dire, mais moi, je suis née à Paris 20e, en fait. On me demandait aussi, mais que font tes parents? Et il fallait en trouver une justification au fait que j'existe dans cet espace. Et donc, on me demandait d'où je venais. On me demandait ce que faisaient mes parents. On me demandait quel cursus j'avais fait, parce que les personnes de cet environnement, en fait, ne comprenaient pas ce que je faisais là.
Mais t'étais un ovni.
Voilà, j'étais un ovni. En fait, j'ai été traitée pendant toute ma carrière comme une espèce d'accident industriel, si tu veux. C'est ça, l'histoire.
Et du coup, tu t'es dit, je claque la porte.
Non, non, on m'a claqué la porte. C'est pas la même chose. Parce qu'à un moment donné, si tu veux, la conscience d'être l'autre t'empêche, en fait, d'être dans le moment, parce qu'en fait, tu es là à répondre à des discours qui ont été produits avant toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que finalement, tu n'es jamais en fait dans ce moment présent. On a une espèce de problème avec la temporalité. Avant d'être dans mon moment à moi, avant d'être dans le moment de Marie, je vais être déjà en train de répondre sur toutes les justifications ou toutes les projections qui ont été faites sur ma personne. Et il y a un moment donné où cette charge, Maboula Soumaoro parle de charge raciale, à un moment donné, cette charge raciale devient extrêmement importante. Et je pense que je n'arrivais plus tellement à la gérer. J'arrivais plus à gérer l'absurde des interactions. J'arrivais plus à trouver de cohérence et de sens dans ce que je faisais. Et ça s'est vu, en fait. Parce que vraiment, je me suis laissée tomber. J'avais plus envie de performer. J'avais plus envie de faire ce qu'on me demandait. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais pas ce qu'on te demande? On te dit, mais au revoir. Et ce licenciement, j'en ai pas pris conscience tout de suite. En fait, ça a été un moment qui m'a défini, en fait. C'était un moment, en fait, qui m'a forcé, en fait, à sortir de moi-même et à faire le bilan. Ce qu'on n'a jamais le temps de faire, en fait. Parce qu'on est conditionné de sauter de l'expérience A en l'expérience B à l'expérience C sans jamais se demander ce qui s'est passé.
Il a fallu ce choc, en fait, du licenciement pour que tu te dises qui je suis vraiment.
Ouais. C'est un process parce que le licenciement, c'est quelque part la perte d'un statut social. Genre, j'avais plus de carte de visite.
Oui, puis tu parles aussi de comment, en fait, gérer ça auprès de la famille, auprès de auprès des autres.
Hein. Oui, moi, je devais rentrer et dire à ma mère, assieds-toi, bonsoir. Tu vas devoir updater le groupe WhatsApp. Tu vas devoir. Donc, en fait, il y avait cette honte, cet échec que je trouvais cuisant. Il y avait cette culpabilité, puisqu'en fait, je n'étais pas Marie, en fait, là-bas. J'étais Marie qui représentait tous les Noirs de France et de Noirie. Donc, du coup, il y avait tout ce truc-là, genre, je me suis failli à moi-même, j'ai failli à ma famille, j'ai failli à tous les Noirs de France et de Navarre. Donc, en fait, du coup, ça a été très dur pour moi, si tant et si bien que pendant 2 ans, je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie. Ça s'appelle communément la dépression. pendant 2 ans, je suis dans le noir, je me demande ce que je vais faire de ma vie. Je me dis, mais comment je vais faire pour retourner au travail?
Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que, tu parles de dépression, un thème, en fait, un sujet dont on parle très peu, puisqu'on doit être très fort, on peut pas faillir. Et d'un autre côté, cette dépression, elle vient aussi par rapport à ce poids énorme qui est de représenter toute la famille, tous les Noirs de la société, toutes les personnes qui comptent sur nous. Et c'est vrai que toi, tu as pu rebondir par rapport à ça, mais beaucoup de gens aussi vont vraiment sombrer, en fait, par rapport à cause de ce poids qu'ils portent dès l'enfance déjà, mais aussi dans l'adolescence, pendant le monde du travail. C'est beaucoup, beaucoup de poids, beaucoup de charges.
Oui, c'est une charge, en fait, qui... c'est une charge qui tue, en fait, à petit feu, parce que, on est obligé, en fait, dans ces espaces, d'exister dans une espèce d'identité contrariée en permanence. Donc, bien évidemment, en fait, que ça a un effet mental physique sur les personnes, en fait. Une fois que je me suis fait licencier et que j'étais dans ma chambre entre quatre murs, en fait, il fallait gérer en tous les coups qui m'ont été portés. Et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une famille, un support système extrêmement important et resserré autour de moi. C'est ce qui m'a permis aussi de dépressionner, mais aussi de penser. Et à un moment donné, quand il y a cette question pressante de savoir où tu vas aller, et tu dois en fait revisiter les endroits où tu as été. Et c'est ça, en fait, qui est à la base du travail de Nkali. C'est-à-dire qu'en revisitant les endroits où j'avais été, j'ai aussi revisité les moments où j'étais humiliée ou discriminée ou oppressée. Et ça m'a permis, en fait, de réfléchir sur ces moments-là. Ça m'a permis aussi de partir de cette question-là et de dire, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui me ressemblent et qui ont eu cette expérience-là ? Et quand j'ai commencé à me rendre compte, en fait, que c'était pas seulement moi, c'est là que le travail, en fait, de décryptage a commencé.
Et du coup, c'est important, c'est aussi pour ça que tu fais ça aujourd'hui, pour aider, en fait, les autres personnes dans ta situation et pour dire qu'elles sont pas seules.
Oui, je pense que c'est la première réalisation de savoir qu'on n'est pas seul, mais aussi, et j'en parle souvent, la colère a été un facteur déterminant. La colère, finalement, dans certains cas, c'est une émotion qui nous ramène vers la dignité. Quand on est en colère, on se dit « mais comment j'ai pu être traité de cette manière-là » Pourquoi pourtant, on me traite de cette manière-là ?
Et pourtant, la colère, elle est très mal perçue. C'est quelque chose qu'on essaie de taire au maximum. Mm-hmm. Par exemple, en tant que femme noire, de se dire « la femme noire en colère, l'angry black woman », on essaye vraiment d'éviter ça, ce sentiment de colère, de... Non ? C'est pas le genre de choses qu'on évite en tant que femme noire ?
C'est, en tout cas, on a été socialisés de cette manière-là, puisque en fait, nous, on est censé être agréable. On est censé tendre l'autre joue. Et en fait, il y a toute cette dialectique hypocrite un peu de la non-violence qu'on va faire peser sur les personnes oppressées. C'est on vous oppresse, mais attention, ne soyez pas violents avec nous.
I have a dream.
Voilà, Martin Luther King a dit. Voilà. Et donc, cette injonction à la non-violence, elle est extrêmement perverse quelque part. On a besoin, toute proportion gardée, mais on a besoin de violence pour se défendre. La violence, qu'elle soit symbolique, qu'elle soit verbale, qu'elle soit dans ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est aussi, elle est aussi corrélée à un instinct de survie. Donc, pour ce qui est d'être labellisée angry black woman ou femme noire en colère, en fait, j'ai appris à ne plus avoir de problème avec ça. Évidemment que je suis en colère.
Et ça permet aussi de reconnaître que ce n'est pas normal, en fait, que ce n'est pas un comportement ce qu'on,
mais
ce qu'on c'est, subit.
C'est une, la colère est une prise de conscience. La colère est une prise de conscience. Merci.
Et en même temps, bah, c'est bizarre parce que le fait de relire tout ça, de voir tout ça couché sur papier, même si on en parle entre nous, on se dit, mais oui, c'est arrivé, c'était aussi violent. Et puis le fait que tu l'analyses comme ça, tu es un petit peu derrière notre épaule en disant, mais ouais, c'est réel. Et en fait, c'est tout un système derrière tout ça. C'est quelque chose de très organisé et que ce n'est pas quelque chose d'individuel, ce n'est pas un racisme individuel.
Oui, je pense que c'était important de montrer ça, de montrer en fait le caractère systémique, donc presque systémique, donc systématique, de ces oppressions et de ces vécus. Je pense pas avoir pris le parti de le raconter de manière très sociologique. Moi, la question qui m'intéresse, c'est que se passe-t-il dans le cœur, dans la tête, dans l'âme d'une personne oppressée, et comment en fait, à partir de ce qu'elles ont vécu, les mettre en capacité de se défendre, de dire non, de battre en retraite, de fuir ou de confronter. C'est ça qui m'intéressait, en fait. C'est de montrer à travers l'individu le systémique de ses expériences. Et que mon espoir, en tout cas, c'est que quand une personne lise le livre, qu'elle prenne conscience qu'elle n'est pas seule, mais qu'elle prenne aussi conscience du fait qu'elle peut se défendre.
Et on a vraiment l'impression d'avoir une conversation avec toi. C'est important que tu dises que tu n'as pas voulu faire un essai sociologique. Il se lit très bien et on a l'impression d'être avec toi, là, d'avoir une séance de coaching en direct, en fait.
Bah, en fait, de toute façon, je n'ai pas les capacités de faire un truc sociologique. Donc, du coup, j'étais obligée de partir de ce que je sais faire, de partir de ce que je sais voir et d'essayer, en tout cas, de l'expliciter. Et en fait, c'est marrant parce que tu parles aussi de l'oralité, en fait. Enfin, ce livre, en fait, je l'ai parlé, en fait. Je me suis enregistrée. Ensuite, je retranscrivais ce que j'avais enregistré. Et donc, c'est pour ça qu'il a un côté très, très parlé.
Tu revalorises aussi l'oral à travers ton livre.
J'espère, en tout cas.
Je voulais aussi voir, tu parlais de méritocratie qui nous déshumanise. Et là aussi, le fait que tu nous dises, par exemple, qu'on a le droit d'abandonner. C'est des choses que tu dis souvent, en fait, dans plusieurs chapitres. C'est de se dire, pour se protéger, il faut faire attention à la méritocratie. Et pour se protéger, il faut savoir aussi se retirer, parfois.
En fait, la méritocratie, c'est un mensonge d'État. On nous parle d'ascenseur social. L'ascenseur, il est arrêté au moins zéro et il pue la pisse, en fait. Donc, l'ascenseur social, en fait, n'existe pas. Ou en tout cas, on est désespérément en train de l'attendre. Donc, pour moi, c'était important, en fait, de déconstruire ce mythe de la méritocratie qui, quelque part, inscrit dans les individus cette notion de « si tu n'as pas pu, c'est que tu n'as pas assez voulu ». Or, on a voulu des choses. La méritocratie, c'est tout simplement une société donnée qui essaie de légitimer son mensonge. Parce qu'en fait, on ne peut plus mentir de manière aussi éhontée. On ne peut plus. Donc en fait, on va prendre un mensonge et en fait, on va l'ériger en réalité. Et c'est ça qui nous fait exister de manière contrariée. Parce qu'on sait la vérité, mais la vérité en fait n'est pas dite. Et donc, on est obligé de faire avec ce qui est dit. C'est là, en fait, que le débat interne peut être assez dévastateur.
Et d'ailleurs, tu parles aussi de dépassement de soi, de ce piège, de ce dépassement de soi.
En fait, se dépasser, mais pas n'importe comment et pas pour n'importe qui. J'avais une collègue. Un jour, elle est venue, elle était malade, malade, malade. Je dis, mais pourquoi t'es pas restée chez toi ? Non, mais la boîte, tu comprends ?
Elle va s'effondrer.
Et quand, à fur et à mesure qu'elle me parlait, j'étais là, mais viens, on va chercher nos nez rouges au vestiaire, puisqu'on est devenus des clowns, viens. Et en fait, le truc, c'est que à partir du moment où tu as compris que tu étais un élément remplaçable, disposable, se dépasser pour aller où exactement ? Mais vraiment, et en plus, c'est drôle parce que finalement, en fait, on parle de mensonges qu'on légitime. Les boîtes où on va te parler de dépassement de soi, il y a un message cassé derrière, c'est-à-dire qu'on te dit, on te parle vraiment de dépassement de toi parce que c'est ce que tu vas devoir faire, en fait. Les boîtes qui vont te dire, on va vous sortir de votre zone de confort, vous allez devoir vous battre, c'est parce que vraiment, ils n'ont pas intérêt à mettre les conditions adéquates en face, en fait. Ils te disent, nous, on va rien mettre en place. Nous, on va rien faire pour que tu puisses travailler en bonne intelligence. Nous, on ne va rien faire pour que tu puisses te développer. Donc, effectivement, on va parler de dépassement de soi et c'est un cache-misère. C'est une manière de cacher, en fait, tout ce qui se passe dans les coulisses.
Alors, il y a un truc qui m'a trop fait rire. Bon, il y a plein de trucs, mais bon, on va passer par celui-là. C'est qu'en fait, aux États-Unis, on a les Karen.
Ouais.
Et en France, c'est qui ?
C'est qui chez toi ?
Bon, j'espère qu'il n'y a personne qui s'appelle comme ça ce soir.
Ouais, viendra me trouver, c'est pas grave. Bah, en France, ma Karen, ça a été Géraldine. Donc ma Karen, c'était Géraldine. Donc on parle en fait de comment en fait les femmes blanches interagissent avec les femmes racisées. Passage dans le livre que j'ai écrit comme ça. Genre.
Oui, parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui savent pas ce que c'est une Karen, peut-être. Donc, parce que j'ai vu quelques questionnements dans le... Voilà, donc, qu'est-ce qu'une Karen ?
Si on doit l'expliquer de manière simple et intelligible, une Karen ou une Géraldine, en fait, c'est une femme blanche qui va utiliser en fait, son statut de minorité sexuelle pour pouvoir opprimer. C'est... une femme qui va prendre l'excuse d'être femme, mais qui ne va pas renoncer à sa blanchité. Dans le livre, je parle des larmes des femmes blanches, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, en fait, avec les personnes que j'ai pu accompagner. C'était cette personne m'a insultée, et c'est moi qui me retrouve dans le bureau à la consoler. C'est vraiment arrivé. C'est ce qu'on appelle l'inversion de la charge victimaire, en fait. C'est-à-dire que le bourreau devient victime.
Tout à fait.
et on va le considérer comme tel. En tant que femme noire, quand tu es dans une pièce avec une femme blanche et qu'il y a un conflit, tu vas devoir faire attention à la manière dont tu vas exprimer ta désapprobation. Parce que dans cette pièce, il se peut que tu vas être considéré comme un élément agressif, à dompter et à civiliser. Et ça, elles le savent.
Et ça se passe dès la petite enfance. Hein.
Mais dès la petite enfance.
Quand un enfant, par exemple, est victime de racisme et qui se défend parce qu'à force d'avoir dénoncé à plusieurs reprises et que tout le monde dit que ce n'est pas grave et que ce n'est que des jeux d'enfants et que ce n'est rien, si l'enfant se défend, il finit par être l'agresseur et en fait, on oublie tout ce qui s'est passé, toute l'agression qu'il y a eu avant.
Et moi, je tapais tout le monde.
Au moins, c'est clair.
Dès que tu me faisais un truc, je tapais tout de suite. Et bien évidemment, effectivement, j'ai dormi dans le bureau du directeur, j'ai dormi dans le bureau de la maîtresse. Et donc, on convoquait mon père qui arrivait et qui, devant la maîtresse, disait « Oh, c'est pas bien. » Et après, dès qu'on sortait de l'école, il disait « Tu l'as tapé, c'est bien. » Et donc,
ah, mais oui.
Du coup,
oui, oui.
Voilà, je me suis défendue. Donc, en
si
fait,
tu te défends,
moi, en fait, malgré leur respect de l'école, j'avais le droit de me défendre.
Mais bien sûr.
Donc, en
si
fait,
tu te défendais pas à la maison, que tu venais en pleurant,
on me disait mais
t'as rien fait,
t'as rien. Ouais, mais c'est ça. Et en fait, j'ai vu en fait que j'étais considérée en fait comme un espèce d'élément anxiogène qu'on devait traiter. Donc, et bien sûr que ça se poursuit dans le travail.
Donc merci pour cette explication de la Géraldine. Du coup, on va dire
GG. Et aussi, juste un truc, nous, on n'a pas le droit de pleurer au travail. On n'a pas le droit. Moi, j'allais pleurer dans les toilettes. J'avais la pause pleure.
Mais est-ce qu'on n'a pas le droit ou on ne se l'autorise pas?
Alors,
est-ce que ce n'est pas une fierté aussi de se dire on encaisse, on en...
Tu pleures au travail en tant que...
Comme on disait tout à l'heure, il faut être fort.
Les deux. En fait, si tu pleures au travail en tant que femme noire, en tant que femme racisée, on va t'hystériser, mais tout de suite. Et ça, on l'a vu... Dans des cas, beaucoup de jeunes filles noires qui n'ont pas été prises en charge par le
quand
SAMU.
Quand elle a appelé les urgences.
Et elle appelle le SAMU, l'opératrice se moque d'elle. Et donc, il n'y a pas de prise en charge derrière. Et donc, Naomi décède. Et en fait, j'ai lu des articles assez hallucinants. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas de la douleur de la famille de Naomi. On ne parlait pas du racisme. Sur ligne, sur le fait poser la mort de Naomi. Il y avait des articles où tu avais plusieurs lignes sur le fait que l'opératrice se sentait mal. Mais bien sûr, tu te sens mal, en fait, tu as tué quelqu'un. Et en fait, il y avait ce truc de... Oui, mais bon, l'opératrice se sent mal.
L'empathie envers la personne qui n'a pas pris en charge, alors que la personne qui est décédée, c'est quand même Naomi.
Exactement. Je vois aussi ça, par exemple, avec Assa Traoré, qu'on présente comme la femme noire en colère. Et jamais on rappelle qu'elle est rentrée dans ce combat parce qu'on a tué son frère. Et qu'elle a été obligée en fait, de provoquer ces mobilisations parce qu'il y a un déni de justice à la base. Donc on oublie que Assa Traoré est une victime. On oublie que Naomi Muzenga est aussi une victime parce que les victimes ne peuvent pas être noires, les victimes ne peuvent pas être racisées.
Et en même temps, on nous accuse de nous victimiser tout le temps.
Exactement.
Est-ce que ce n'est pas un problème d'empathie justement où on a moins d'empathie, on va dire, pour les personnes racisées?
Bah voilà,
là, c'est clairement
ça a été théorisé. Ça a été théorisé. Ça s'appelle le fossé empathique. Donc en fait, d'un côté, on nous refuse d'être des victimes, et ça va être quand, par exemple, quand c'est évident, on va nous dire non, Naomi est décédée, mais on a une opératrice qui pleure et qu'on doit prendre en charge empathique. Bien sûr qu'il y a un fossé empathique. C'est aussi le drame de l'oppression, en fait. On a de l'empathie pour les personnes qu'on humanise.
Et tu parles justement de déshumanisation des personnes racisées hein, ou des personnes minorisées dans ton livre. Et le refus de... Le refus de la colère, c'est aussi une espèce de déshumanisation.
Mais en fait, ça rejoint tout le discours autour de la non-violence qu'on est censé performer. Parfois, par exemple, on nous dit... c'est pas parfois, c'est vraiment ça, en fait. On nous refuse d'être en colère, on nous refuse d'exprimer cette colère. Et en fait, in fine, on nous refuse le droit à l'autodéfense. Il n'y a aucune autodéfense qui va se faire sans violence, en fait. Donc, quand on pratique cette espèce de non-violence et qu'on nous la met comme une injonction, c'est quelque part un empêchement d'aller
se défendre.
Voilà, c'est un empêchement de se défendre et c'est aussi une manière de taire notre instinct de survie. Merci.
Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, quelques conseils ? Je ne sais pas, la règle des 300 secondes, c'est quoi cette règle ?
La règle des 300 secondes, en fait, pour moi, en fait, c'était important de montrer que l'oppression, dans une interaction, va trouver sa racine dans le temps qu'on est capable de prendre à quelqu'un. Donc, en fait, j'ai identifié le temps comme un moyen d'accès. Les oppresseurs, en fait, prennent notre temps et parce qu'ils prennent notre temps, ont accès à nos émotions. Et je me suis posé la question de combien de temps on consacrait à l'oppression. Et j'ai commencé à me poser la question de comment on peut réduire la place de l'oppression dans nos vies. Bien évidemment, on va réduire la place de l'oppression dans nos vies en s'organisant collectivement. Maintenant, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment ça pouvait s'organiser au niveau de l'individu. Et j'avais en tête, en fait, une discussion que j'ai eue avec une de mes voisines il y a quelques années. Cette voisine, en fait, porte le foulard. Et à un moment donné, on discute dans les escaliers, etc. Et je vois qu'elle est contrariée. Je fais « Alors, qu'est-ce qui t'arrive ?» et tout. Et elle me dit, elle me raconte un peu ce qui s'est passé. Elle me raconte un peu sa journée, etc. À la journée qu'elle me parlait, je réfléchissais en même temps. En fait, je réfléchissais à la journée qu'elle m'avait racontée. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai réfléchi à ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit que, par exemple, quand elle était allée acheter sa baguette, le boulanger en fait l'avait ignorée et avait servi deux personnes qui étaient derrière elle. Il était 7 heures du mat.
On connaît, hein.
Voilà, on connaît. Il était 7 heures du mat. Elle arrive à l'école et elle se rend compte qu'en fait il y a une sortie d'école, mais qu'on ne lui a pas parlé de cette sortie. Et il est 8h20. Elle arrive au boulot, il est 9h30 et elle a allumé la radio et il y avait, tu sais, les débats sur les femmes voilées menées par des hommes blancs qui vont expliquer pourquoi ces femmes ont le droit d'exister ou pas et qui vont être très convaincues de savoir ce qu'ils disent. Et il n'est même pas 10 heures. Et cette personne va commencer sa journée de travail comme ça. Et je me suis dit, en fait, bon, ces interactions, ces choses qu'elle a vécues, on n'aurait pas pu les empêcher. Quand on était en train de se parler, c'était le soir, il était 17h, 17h30. Donc ça veut dire que c'est ce qui s'était passé à 7h, l'impactait encore à 17h30 et il y avait de très grandes chances que ça l'impacte encore le lendemain. Et je me suis posé la question de comment enrayer ça. Je me posais la question si, par exemple, enrayer en fait le pouvoir que ces interactions vont avoir sur nous. Et je me suis posé la question si, par exemple, elle avait pu répondre en une phrase à ce boulanger, si elle avait repris en une phrase, qu'est-ce qui se serait passé ? Est-ce qu'elle m'en aurait parlé à 17h ? Est-ce que ça n'aurait pas été réglé ? Si, par exemple, elle avait dit simplement à la maîtresse, la prochaine fois, vous me prévenez quand il y a une sortie. Qu'est-ce qui se serait passé ? Si, par exemple, elle avait décidé de ne pas allumer la radio dans sa voiture avant d'aller bosser, qu'est-ce qui se serait passé ? Et donc, j'ai construit en fait une espèce de journée alternative dans ma tête où elle répondait à ce qui s'était passé en une phrase pour ne pas tomber dans la justification et pour ne pas commencer à réfléchir une discussion qu'elle allait devoir mener, en fait. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à réfléchir à ces 300 secondes. Donc, et je me suis dit, comment, en fait, je me suis posé la question de la place que l'oppression prend dans nos vies et comment nous on peut réagir. Donc c'est un petit outil en fait. Et je me suis dit, moi Marie Da Silva, je vais consacrer par jour dans ma vie 5 minutes au racisme. J'y arrive pas toujours.
C'est ce que j'allais dire. J'y arrive.
Mais bon, comme on est ambitieux. Hein. Et donc, comment ça se passe ces 300 secondes ? En fait, ces 300 secondes, si je les ai en tête, je vais pas aller m'embrouiller avec un facho de Facebook pendant 45 minutes. Je vais pas m'embrouiller sur Twitter avec un mec qui me dit « Je me fais l'avocat du diable
et... !» L'avocat du diable.
Parce que, comme je suis en train de gérer mon temps et que j'ai 300 secondes, dès cette première fonte, c'est une manière en fait, de gérer les interactions ou les moments qui peuvent être problématiques, mais c'est aussi un outil pour ne pas tomber dans la justification de son humanité. Parce que les souffrances des personnes racisées, en fait, sont consommées par les personnes blanches. Il y a quelque chose de pornographique à chercher à avoir l'accès à nos émotions en permanence. Mmh. Par exemple, là, il y a eu une émission, enfin, il y a eu le Zone Interdite là, sur l'islamisation là, oui. À Roubaix. Mmh. Mais je suis sûre
que le lendemain...
Alors, sur toi, t'arrives à la machine à café et qu'on t'a identifié comme musulmane, qu'on va te dire « Alors, ce reportage,
tu en penses quoi ?»
Toi, t'as même pas bu ton café, t'as même pas allumé ton ordi. Alors ? Et donc, si t'as ces 300 secondes en tête, tu ne vas pas rentrer dans ce débat parce que tu sais déjà que les dés sont pipés. Donc, tu vas pas être dans cette démonstration de ton humanité parce que on est dans ce qu'on appelle, en fait, moi j'appelle ça le dominant de porn. Cette personne-là qui te dit « alors », elle ne cherche pas à avoir ton avis. Elle est en train d'essayer de consommer ton émotion. Elle est en train d'asseoir sa domination sur ta personne. Elle est en train de devenir assesseur de ton humanité quelque part. Et c'est ce qui va se passer quand pendant 45 minutes, tu vas lui expliquer in fine que tu es un être humain. Donc quand tu as les 300 secondes en tête, tu dis « soit je ne l'ai pas vu, soit tu dis « mais encore ?» C'était la même question hier, c'était la même question avant-hier. T'es pas fatigué ? Ça te peut dire que tu parles pas politique au boulot. Et ça te permet en fait de gérer ton temps. Ça te permet en fait de pas tomber en fait dans ça. Parce que c'est 45 minutes où tu vas expliquer à Jean-Michel le pourquoi, du comment, etc. Et qu'à la fin de cette discussion, il va te dire « Ciao, il y a des frites à la cantine ouais. ». C'est toi qui vas gérer. C'est toi qui vas devoir gérer l'émotion qui a été consommée, etc. Et c'est toi qui vas rentrer avec ça chez toi. L'idée des 300 secondes, c'était de stopper en fait, les réactions en chaîne que tu pouvais avoir par rapport à ces interactions. Tu sais que tu as 300 secondes dans la journée. Tu les utilises en fait, de manière radicale. On fait un truc à ne pas donner de son temps et à ne pas laisser nos humanités être des questions auxquelles il fallait se battre pour répondre.
Merci. Je vais avoir une dernière question quand même, Marie, merci. Toi-même, t'es maman. Puisqu'on parle de tout ça depuis tout à l'heure, comment tu gères les rapports à ton fils ?
Après, je pars du principe qu'on n'est pas toujours un cordonnier bien chaussé. Moi, comment je le gère ? Il y a des choses que je ne pourrais pas mettre en place. Il y a des choses dont je ne pourrais pas en protéger mon fils. Donc la première chose, en fait, c'est de l'incapaciter lui. C'est-à-dire développer chez moi en fait un espace où il peut dire il s'est passé ça. Et aussi tous les jours je dis oh t'es beau, oh voilà, oh ceci, oh cela. Même des fois il dit mais maman,
oui je suis beau,
ouais c'est bon, on a compris. Mais en fait le truc c'est vraiment de le restaurer dans cette image de lui. Et la troisième chose aussi, je pense que les parents racisés, on a un défi en fait, on a un défi pour que nos parents nos enfants en fait ne soient pas stigmatisés. On a cette peur en fait qu'ils subissent quelque chose, qu'ils subissent le racisme à l'école. Donc en fait je pense qu'il faut être définitivement présent dans l'école. Il faut être présent dans l'école, il faut les maîtresses, etc.
À quand le coaching pour les parents,
hein? Mais moi-même en fait oui, être parent en fait d'un enfant qui sera très tôt plus considéré comme un enfant, c'est un challenge de taille, et c'est en même temps une angoisse terriblement présente. Donc en fait, oui, je peux pas dire que je ne gère pas ça avec une certaine anxiété.
On va terminer sur cette phrase de ton livre. Ce sont les victimes qui font la révolution, qui détruisent les murs et transforment le monde, enfin transforment la société.
Merci.
Merci. Merci.
Merci.
Merci beaucoup, Prisca. Merci.
Je vais comprendre à lire et à bien grandir.
Vous venez d'écouter Les enfants du bruit et de l'odeur. Si le podcast vous a plu, alors soutenez-le. Partagez autour de vous. Suivez-nous sur Instagram. Vous pouvez même envoyer vos questions ou vos réflexions. Et surtout, mettez-nous une pluie d'étoiles et de beaux commentaires sur vos applications de podcast.